avec Alliance Vita au service des plus fragiles.
Chers auditeurs, le 2 février, la presse annonçait une nouvelle greffe de visage à l'hôpital Valdebron à Barcelone. Sur le papier, rien d'extraordinaire, une greffe de plus. C'est la 54e dans le monde, la 6e en Espagne. Et pourtant, cette intervention a suscité une attention particulière et soulevé de lourdes questions éthiques. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, le donneur était une personne ayant bénéficié d'une euthanasie et ayant pu, par conséquent, organiser elle-même le don de son visage. Hasard du calendrier, le même jour, lors de la séance Faire corps de l'Université de la Vie, le chirurgien Stefano Mastrobioni alertait justement sur les dérives possibles du don d'organes après des euthanasies. Il rappelait quelque chose d'essentiel, le don d'organes est un acte de solidarité majeur, il sauve des vies, mais il n'est éthique qu'à certaines conditions très strictes. La certitude du décès, un consentement libre, la gratuité et l'anonymat. Si la noblesse du geste est largement reconnue, le médecin met en garde contre certaines dérives, notamment la tentation utilitariste, celle de considérer le donneur, non plus comme une personne, mais comme un simple moyen au service d'une finalité médicale. Cette question se pose avec une acuité particulière dans les rares pays qui autorisent l'euthanasie, car dans ces pays, le don d'organes après euthanasie explose, et avec lui, le risque de pression, parfois subtile, sur les décisions de fin de vie. En Belgique, par exemple, le docteur François Damas de l'hôpital de Liège raconte ainsi comment les modalités mêmes de l'euthanasie peuvent être adaptées aux exigences du prélèvement. Il cite le cas d'Eva, une jeune fille de 16 ans, dont l'euthanasie qu'il a pratiquée s'est déroulée sur 36 heures afin de permettre le prélèvement optimal de ses organes. Anesthésiée dans un premier temps, puis intubée, ventilée, Eva a d'abord été transférée en soins intensifs, le temps de réaliser les examens nécessaires et de proposer les organes au centre de transplantation coordonné par le réseau international Eurotransplant. Ce n'est qu'une fois toute l'organisation finalisée, avant même la mort, que l'injection létale a été administrée. Dans nos sociétés de plus en plus matérialistes, obsédées par la maîtrise et le contrôle, la mort par euthanasie devient ainsi utile. Émerge alors un nouveau concept, l'euthanasie, pour sauver des vies. Or, parce qu'il est à la fois précieux et fragile, le don d'organes exige une transparence totale et une éthique rigoureuse, seule garante de la liberté et de la dignité du donneur, du receveur, mais aussi du soignant. En France, nous n'en sommes pas encore là. Mais si vous avez suivi les rebondissements du feuilleton parlementaire, vous savez que le projet de loi sur la fin de vie est de retour à l'Assemblée nationale après son rejet par le Sénat. Le 5 février, il y a quelques jours à peine, la commission des affaires sociales s'en est emparée à marche forcée, rejetant en bloc l'ensemble des amendements de protection et d'atténuation qui avaient été déposés. Un seul amendement, a été adopté, mais c'est celui permettant l'euthanasie des personnes souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques, ce qui aggrave la portée du texte. Comme le souligne le docteur Claire Fourcade, un patient à qui on annonce une affection grave et incurable, engageant son pronostic vital, comme un cancer avancé sans septum par exemple, peut présenter une détresse psychologique majeure et devenir alors éligible. Le risque est clair, répondre par une mort provoquée à un moment d'angoisse, là où l'accompagnement global pourrait soulager, apaiser et redonner du temps. Ironie tragique, le 5 février, c'était aussi la journée nationale de prévention du suicide. Ce jour-là, la commission validait pourtant le principe du suicide assisté. Autrement dit, l'idée que certains suicides pourraient être jugés acceptables et organisés par l'État. Le même jour encore, dans une lettre ouverte aux députés, Florian Donne, atteint de bipolarité, témoignait « Je suis bipolaire, mais heureux, très heureux. Pourtant, je serais probablement mort aujourd'hui si la loi sur le droit à l'aide à mourir avait été votée à l'époque où mes crises étaient incessantes. » Une étude toute récente de la DRES montre que les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes, que le taux de suicide augmente avec la pauvreté et que le veuvage, la solitude ou les troubles psychiatriques constituent des facteurs majeurs. Dans les débats actuels, on nous rabâche que chacun est libre d'y avoir recours ou non, qu'on n'impose rien à personne. Pourtant, une connaissance élémentaire des mécanismes sociaux rappelle qu'il n'est pas obligé, il n'est pas nécessaire d'imposer. Il suffit juste d'induire. Si le suicide relevait d'un choix véritablement libre, il toucherait alors de manière égale les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les personnes entourées comme les personnes isolées. Or, ce n'est pas le cas. Le geste suicidaire ne résulte pas d'un choix libre et autonome, mais d'un enchevêtrement de facteurs à la fois endogènes, comme l'état de santé mentale, mais aussi exogènes, ressources économiques, attentes sociales différentes en fonction du sexe, du statut social, de la qualité du réseau relationnel. Si elle était votée, la loi fin de vie ajouterait un facteur de risque supplémentaire venant s'additionner à ceux déjà existants. Elle entraînerait une normalisation de la demande de mort et du passage à l'acte chez les personnes dites éligibles, mais aussi dans l'ensemble de la société. C'est donc bien la prévention du suicide qui est menacée. On ne peut pas en même temps prétendre prévenir le suicide et répondre à une souffrance psychique par la mort. La loi fin de vie n'imposerait rien à personne, vraiment. Entre pression utilitariste, sentiment d'être un poids pour ses proches ou pour la société, logique économique, clause de conscience restreinte, le texte qui sera examiné à partir du 16 février est d'une gravité exceptionnelle et pourrait devenir l'une des lois de fin de vie les plus permissives au monde et même la plus répressive avec l'instauration d'un délit d'entrave. C'est pourquoi Alliance Vita appelle à un rassemblement interassociatif à proximité de l'Assemblée nationale le 16 février et a lancé une campagne d'interpellation auprès des députés et du Premier ministre. Vous pouvez participer à cette mobilisation, physique ou numérique, en vous rendant sur le site alliancevita.org. Par ailleurs, si vous habitez la Côte Basque ou les Landes, vous serez peut-être intéressé par la journée d'information et d'échange sur la fin de vie organisée le 6 mars à Sobrigues. Elle réunira des professionnels de santé et des intervenants autour de conférences et de tables rondes consacrées aux soins palliatifs, à l'accompagnement de fin de vie, aux directives anticipées, aux enjeux éthiques. L'événement s'annonce riche. Il est ouvert au grand public l'après-midi et réservé aux soignants le soir sur inscription. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la CPTS Côte Sud-Landes. Avec Alliance Vita, nous interviendrons en fin d'après-midi sur le thème « Désaccord et convergence ». Les associations s'expriment pour ou contre l'aide à mourir. Nous tiendrons également un stand tout l'après-midi. Alors si vous passez par là, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. À très bientôt.
Retrouvez toute l'actualité d'Alliance Vita sur le site alliancevita.org.